musique.
Caravanana maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive mon pantalon!
Vive le soleil!
Vive
les oreilles!
Libre!
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, à Montreuil par exemple, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres consacrées aux musiques singulières et autres formes de création curieuse. Aujourd'hui, nous sommes très très heureux de recevoir à nouveau Sophie Agnel. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors pour débuter l'émission, nous avons écouté Akissia, qui est un extrait de l'album de Sophie Agnelle, John Edwards, Steve Noble. On en parlera après de ce trio. Mais là, nous te recevons aujourd'hui à propos de double jeu, un duo avec le vidéaste Lionel Palin, qui aura lieu au Théâtre Berthelot de Montreuil les 26 et 27 mars. Alors, on t'a reçu à plusieurs reprises. La première fois, je crois que c'était en décembre 2012 dans notre émission. J'ai réécouté l'émission il y a quelques temps. Tu vois, ça fait un peu longtemps, donc les auditeurs ne se souviennent plus. D'autant que l'émission, elle n'est pas en ligne. Notre ami Laurent Pascal a mis les émissions à partir de 2013, de janvier 2013.
Ah, juste un an après.
Non, un mois après.
Un mois après.
Tu te rends compte. Donc, voilà, ça va te donner l'occasion de réitérer les petites explications, à savoir, nous, ce qu'on aime bien savoir en début d'émission, c'est quelle a été la formation musicale de notre invité. Alors, peut-être pas rentrer dans le détail, mais moi, si je me souviens bien, il y avait un petit souci avec la formation classique et je voudrais savoir comment tu t'en es affranchi.
Un petit souci, pas de souci ou un gros souci. Enfin, en tout cas, je fais toujours de la... Effectivement, j'ai pris des cours, j'ai appris à jouer des partitions de la musique classique quand j'étais petite. J'ai pris des cours, j'ai pas été au conservatoire ou très très peu. J'ai plutôt pris des cours particuliers de piano, de musique classique, puisque c'est comme ça qu'on commence dans les bonnes familles. Et puis à l'âge, entre l'adolescence et l'âge adulte, quand j'étais jeune adulte, on va dire, j'ai commencé à faire du jazz. Et puis aussi d'autres choses, la variété, la musique, du bal, des trucs, du synthé même et tout. Et en tout cas, j'ai voulu faire autre chose et j'ai fait pas mal d'autres choses, mais surtout du jazz. Et c'est plutôt par le jazz que je suis arrivée à la musique que je fais maintenant, qu'on dit musique improvisée.
Oui, musique improvisée. Et alors, mais j'aimerais savoir ce qui, par rapport à cette formation, pour toi, peut-être plus généralement, est-ce que tu penses que c'est nécessaire ? Parce que souvent, on nous répond ça, oui, j'ai fait du classique, je me suis bien fait chier, mais c'était nécessaire, c'était normal. Est-ce que toi, tu contestes le bien fondé de cette formation classique et est-ce que tu penses qu'il faudrait changer la manière d'appréhender l'étude de la musique ?
D'abord, je me suis pas bien fait chier. Je me suis pas fait chier, mais peut-être que j'ai dit ça en 2012. Mais je crois pas. En tout cas, je crois que je me suis pas posé la question. Je sais pas. Chacun son chemin. Il y a dix mille manières d'aborder l'instrument et d'aborder la musique. Moi, je me sers de tout ce que j'ai appris. Évidemment, si j'en avais pas fait de musique classique, je jouerais pas du tout de la même façon et je serais pas la même personne et ma vie serait différente. Elle serait peut-être mieux, elle serait peut-être pire, en tout cas, ça serait différent. Mais bien sûr, l'enseignement est hyper, hyper ringard.
Ouais, quand même.
Bah oui, ça c'est clair. Mais en même temps, je peux pas cracher du tout sur tout ce que j'ai appris.
Oui, oui, d'accord. Alors, moi, je me souviens de ta réponse à l'époque. Que tu parlais de physicalité, en fait. Hein, il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est que tu parlais de jouer mal assise.
Ah oui, parce que après ces années de musique classique, faut un peu... c'est compliqué de faire autre chose qu'une... Oui. Que ce qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire faire... exactement ce qui est écrit, et s'asseoir comme ci, comme ça, et les poignets bas, et les mains, nana. Et donc, oui, moi, j'ai une espèce de petite période, enfin, pas une espèce, une période de un peu de désapprentissage, quoi. Donc, comme de rébellion, une crise d'adolescence du piano, quoi, de la pianiste qui veut plus faire du tout de musique classique et qui veut croiser les jambes et qui veut. Parce qu'elle se rend compte qu'en fin de compte, quand elle a plus de partition, elle sait rien faire. Et que. Alors, comment faire pour faire quand on sait rien faire ? Quand on croit qu'on sait rien faire ?
Et alors, est-ce que tu enseignes toi-même ? Je sais que tu donnes, tu proposes des workshops, comme on dit, des stages. Mais est-ce que tu enseignes au conservatoire, par exemple ?
Non. J'ai beaucoup enseigné entre l'âge de 20 et l'âge de 30, entre 20 et 30 ans. Quand j'avais entre 20 et 30 ans, j'ai donné beaucoup de cours dans des écoles ou à la maison, de piano, même de musique classique et tout, essentiellement à des enfants. J'aimais beaucoup ça, mais à partir du moment où j'ai commencé à jouer assez régulièrement et donc à être absente, j'ai plus donné de cours réguliers parce que ça marche pas l'irrégularité et les cours pour les enfants en tout cas. Donc je donne des cours parce que j'aime bien la pédagogie, ça m'intéresse. Après moi je veux bien enseigner dans un conservatoire, hein, mais j'ai pas de diplôme, donc je peux pas. Mais je crois que pour une période donnée, ça m'intéresserait quand même de reprendre un peu. Un peu ça.
D'accord.
Mais je crois que c'est pas possible. J'ai pas de diplôme, moi.
D'accord.
Donc, effectivement, oui, je fais pas mal de workshops et de.
Bah alors, justement, dans ces workshops, donc, c'est destiné aux gens qui pratiquent la musique improvisée, plutôt, hein, on va dire. Comment abordes-tu la question de la transmission ? Qu'est-ce que tu tentes de transmettre ?
J'essaye de faire que chacun trouve ce qu'il est réellement et arrive à construire avec ça quelque chose, se sente libre de. C'est une psychanalyse en fait.
Oui.
Voilà. Mais j'essaye de. Bah, c'est-à-dire que. Oh, je sais pas. Parce qu'il y a le collectif et il y a l'individuel. Et donc j'essaye d'être à la fois dans le collectif et dans l'individuel, c'est-à-dire de que ce soit pour chacun, avec ce que chaque personne est, qui trouve vraiment son chemin propre. Mais en même temps, si c'est des workshops où il y a 20 personnes, il faut bien apprendre à s'écouter et...
Ouais. Et est-ce qu'il n'y a pas l'idée, parce que moi j'ai fait un workshop avec toi, mais j'en ai fait un une fois, et je m'étais demandé si le but de ça, c'était pas justement de sortir les participants de leur confort, de leur zone de confort, de leur habitude, et peut-être les confronter par exemple avec d'autres musiciens qui ont d'autres pratiques, tu vois, presque opposées ou...
Bah, c'est-à-dire que, je sais pas, en tout cas un workshop pour moi c'est déjà un lieu avec des murs ou pas de murs d'ailleurs, ça peut être dehors, mais enfin moi comme en général il y a des pianistes, il faut des pianos donc il faut des murs où on a un temps donné pour être ensemble, ce qui déjà se fait, moi je parle très peu, j'essaye que les choses se fassent, et déjà d'avoir un espace... des horaires et pour être ensemble et se rencontrer, forcément déjà il se passe quelque chose qui pour moi est important, et c'est plus ça. Alors après évidemment c'est super de rencontrer des gens qui sont différents, ça c'est toujours bien.
Et alors, je voulais savoir comment tu travailles ton instrument aujourd'hui, parce que je me souviens d'avoir tenté d'organiser un rendez-vous avec toi pour une émission, et à chaque fois tu dis oui, mais je répète. Alors, est-ce que tu travailles des gammes ? Est-ce que tu recherches des sonorités ? Ou est-ce que tu répètes avec d'autres musiciens en studio ? Comment tu travailles aujourd'hui alors que t'as plus de...
Alors, quand je suis seule chez moi, quand je fais du piano à la maison, souvent, je travaille de la musique écrite. Ouais. Et je ne travaille pas l'improvisation, en tout cas.
Tiens, donc,
Je ne travaille pas les sons non plus. Quand je... Le piano, les objets que je mets à l'intérieur du piano, le piano qui est trafiqué, tout ça, qui est étendu, toutes les choses que j'ai découvertes, c'est en jouant avec les gens, mais très rarement seul. Dans une urgence que je trouve pas quand je suis seule, et j'ai pas l'énergie quand je suis toute seule d'être comme si j'étais en jeu vraiment en concert ou avec d'autres gens. Donc seule à la maison, je travaille les partitions, et comme ça j'ai aussi un bon rapport avec mes voisins qui entendent absolument tout ce que je fais. Donc je suis pas hyper à l'aise pour travailler. J'ose pas aussi cogner mon piano à la maison. Tout le monde entend. Bon. Mais du coup, enfin, je travaille, en ce moment, je travaille une sonate de Beethoven, par exemple.
Ah, super.
Voilà, et puis sinon, de temps en temps, je répète avec des gens, je joue avec des gens en dehors des concerts, c'est-à-dire, c'est des répétitions, c'est du travail, quoi.
Oui, bah oui.
On joue ensemble, on se revoit plusieurs fois parce qu'on a envie d'aller au fond de creuser la musique, mais c'est pas des... Oui. Le mot répétition, effectivement, en français, il est un peu...
Il convient pas, effectivement.
Convient pas, mais on travaille, quoi.
Et oui, mais ça s'entend, figure-toi, hein, que c'est travaillé. Est-ce que tu joues de la musique composée est-ce que tu en jouerais en concert? Est-ce que c'est possible, ça?
Ben, ça m'est arrivé il y a l'année dernière, ou il y a 2 ans, on a joué avec Barbara Dang, qui est une pianiste de Lille. On a fait... Parce que justement, j'ai eu envie de faire de la musique écrite contemporaine. J'en ai jamais vraiment fait, en concert en tout cas. Et on a interprété une pièce pour 4 mains et un seul piano.
De Tom Johnson.
Qui s'appelle Symétrise, qui est une très belle pièce pour 4 mains.
Oui, je me souviens, Barbara était venue nous en parler.
Voilà, ouais. Et bon, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas refait, mais après, c'est comme tout, quoi. On n'a pas eu l'occasion, mais on veut bien venir la faire quelque part. Enfin, c'est dans un coin de nos doigts et de notre tête.
Très bien, très bien.
Ouais.
Et alors, tout à l'heure, tu as utilisé le mot de piano étendu. Et évidemment, tu sais bien que je vais te poser cette question-là. Pourquoi ne pas utiliser le terme de piano préparé? Pourquoi il ne convient pas à ta pratique?
Parce que préparer, ça veut dire John Cage, ça veut dire le préparer à l'avance, ça veut dire le transformer en amont pour qu'il soit différent avant qu'on le joue. Ouais. C'est-à-dire mettre des choses dans les cordes pour que... Moi, je le prépare... Je joue en direct, je pose les objets. Quand j'ai envie d'entendre un son, pof, fabrique au moment où je joue le truc.
Okay.
Donc le piano, il y a un endroit sur le piano où je pose mes objets, mais ça ne fait pas du tout sonner le piano différemment. Et au moment où je suis en train de jouer, je manipule. Mais préparer, c'est préparer en avance. Moi, je ne prépare pas.
Okay.
Non, c'est dans ce sens-là. Et puis John Cage, c'est ça, c'est-à-dire que c'est des heures de préparation à l'avance, avant de jouer, de manipulation dans les cordes, et après, le jeu, il est sur le clavier, et le clavier, il sonne plus du tout comme un clavier de piano normal. Moi, c'est pas ça que je fais.
Oui, parce que toi, a priori, ton piano, il sonne comme un piano normal, si tu mets rien, enfin, je veux dire...
Ouais.
Ok.
Et je joue à la fois, il n'y a rien de révolutionnaire, hein, de toute façon. Je joue à la fois je peux toucher les cordes, je peux toucher le clavier, je peux toucher les deux, je peux rajouter des choses sur les cordes ou pas. Enfin, tout est... C'est pour ça, c'est plus étendu. Enfin, moi, je dis que je joue du piano, en fait.
Oui. Oui.
Quand on me demande.
Eh bien, on va t'écouter jouer du piano avec dans ce trio Nyx avec Angelica Castello et Isabelle Dutoit.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui à la pianiste Sophie Yagnel. Alors, on vient d'écouter le trio Nyx avec Angelica Castello et Isabelle Dutoit. Cette pièce a été enregistrée par Radio France pour l'émission à l'improviste de notre camarade Anne Montaron, qui a connu quelques difficultés.
Qui... Radio France et... Et toute la radio connaît beaucoup de difficultés, oui.
Bah, c'est-à-dire que, oui, il y a eu quelques émissions de création, comme on dit, qui ont été menacées. Alors, je ne sais pas ce qu'il en reste, mais voilà, bah, on souhaite longue vie aux émissions de création sur Radio France. Et nous, on continue à nous intéresser à la création dans Les Oreilles Libres. Et alors, j'aimerais bien que tu nous présentes ce trio. Alors, Isabelle, peut-être, Isabelle Dutoit, on la connaît, on l'a reçue, il y a même pas très longtemps de ça pour le Festival Paysage d'écoute. Mais Angelica Castello, j'avoue qu'on la connaît moins et j'aimerais bien que tu nous dises tout simplement, je l'ai vue jouer en concert, mais de quoi joue-t-elle donc ?
Alors, elle joue d'une flûte rouge.
C'est une flûte, ça. Ouais.
Qui s'appelle Petzol, qui a été fait par Monsieur Petzol, je crois, qui est une espèce de flûte comme une flûte à bec, qui est grande comme moi ou petite comme moi, qui compose au sol et on souffle dedans, il y a un bec. Elle doit faire un mètre. Il y a plusieurs tailles. Hein. Il y a les flûtes soprano, ténor, machin. Elle doit faire 1m60, la sienne, ou je ne sais pas exactement. Donc elle en joue. Ça fait des sons très graves. Et elle joue aussi de l'électronique. Elle a tout un set avec des cassettes. Elle joue beaucoup avec ses cassettes.
Ah, oui, d'accord. C'est des cassettes audio. De la radio, non, peut-être.
Et. Et je sais pas, elle a plein de bidouilles là.
Alors comment vous êtes vous retrouvés à jouer ensemble et aussi est-ce que c'est une formation régulière qui sera amenée à rejouer ?
Oui, Isabelle et Angelica se connaissent depuis longtemps. Elles habitaient dans la même ville à un moment à Vienne. Isabelle n'habite plus là maintenant, mais Angelica est mexicaine et habite en Autriche, donc à Vienne. Et elles ont joué longtemps en duo, je pense qu'elles le font toujours un petit peu de temps en temps, et elles ont eu envie de m'inviter. Et je suis restée. Et on a fait, je ne sais pas combien de concerts, 5, 6 concerts, 7 concerts. On en a plusieurs à l'automne prochain déjà qui sont prévus. On aime beaucoup jouer ensemble, voilà. Musique un peu... Un peu quoi ? Je sais pas. Un peu sympa.
J'aurais dit chamanique. Un peu sympa. Chamanique, je sais pas pourquoi.
Allez, chamanique.
Ah, ça veut rien dire.
Ouais, ouais, mais... les gens disent ça.
Ouais. Ah, d'accord, ouais. Ça, tu vois. Ouais, ouais. Je dis comme les gens, alors c'est bien. Alors, il s'agit d'un trio féminin.
Ah, les gens le disent aussi, oui.
Tu vois. Je voulais savoir si tu es sensible aux interrogations qui ont émergé depuis 2 ans concernant la place des femmes dans les musiques en général et nos musiques en particulier.
Non, j'en ai rien à faire. Oui, bien sûr. J'y suis complètement sensible depuis toujours.
Ouais.
Et il est en train de se passer des choses assez intéressantes. En ce moment, ça bouge vraiment, vraiment beaucoup. Ça bouge vite, mais c'est encore... pas ça du tout, quoi. Mais en tout cas, je vois, des fois, je pense à mes 30 ans. On n'était vraiment pas nombreuses. Mmh. Et puis, on pouvait... Enfin, on réfléchissait pas comme maintenant, les choses se disaient, étaient pas, enfin, c'était vraiment différent. Ça a quand même beaucoup bougé ces cinq dernières années. Mais après, nous, avec moi, ce qui m'intéresse aussi avec parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes en ce moment qui émergent, on leur donne la parole, c'est super. Mais ce qui m'intéresse aussi avec ce trio, c'est qu'on n'est pas des jeunes femmes. Enfin, moi, j'aimerais bien être une jeune femme, mais ça, c'est fini. Donc, et donc, on a cette force-là aussi de l'expérience. Et parce qu'en ce moment, on entend beaucoup de jeunes femmes jouer. Et des femmes de notre âge, en fait, on n'est pas tant que ça. On n'est pas tant que ça. Et nous, on est de la génération... enfin, elles sont plus jeunes que moi, mais... Donc c'est encore un peu différent, mais quand même on peut se dire qu'on est dans la même génération en gros, mais on est dans la génération après celle de Joël Léandre et, et Ren Schatzer, les Diaboliques, machin, tout ça, pour lesquels qui devaient se battre comme des hommes et être comme, si je peux, peut-être elle ne sera pas d'accord, mais être un peu comme des hommes pour réussir, avoir cette force-là. Et maintenant, c'est plus du tout comme ça. Et nous, on est venus de... Enfin, nous, si on ne voulait pas se battre comme des hommes, on n'avait pas de modèle, en tout cas. Moi, heureusement qu'il y avait ces femmes-là, mais en même temps, ce n'était pas vraiment un modèle pour moi. Enfin, je ne me sentais pas comme elles, quoi. Et donc, je pense qu'on fait partie d'une génération de femmes qui a vraiment manqué de modèles, alors que les femmes plus jeunes maintenant, n'en manquent pas autant, évidemment.
Et puis, elles sont plus nombreuses, peut-être, ou je ne sais pas, elles sont plus écoutées maintenant, c'est bien, effectivement.
Elles sont un peu plus nombreuses, les hommes... s'occupent un peu plus de leurs enfants, tout ça aussi. Non, mais c'est vrai. Mais parce que des femmes, on discutait de ça l'autre jour, des femmes, il y en a plus. Et des femmes avec des enfants, musiciennes, qui ont entre 30 et 50 ans, ça se compte sur les doigts de la main. Enfin, en France, sur les doigts de 5 mains dans le monde. Mais c'est impressionnant.
Donc toi, tu en fais partie.
Moi, j'en fais partie.
Voilà. On le rappelle. Alors, parlons de ce qu'on a écouté en début d'émission, ta collaboration avec John Edwards, Steve Noble, et ça dure depuis quelques années maintenant. Est-ce que tu peux nous parler de ces musiciens, tout simplement ?
Oui, donc deux musiciennes charmantes. Deux musiciens, pardon, charmants. Anglais, les pauvres.
Pourquoi les pauvres, tiens ? Ouais, le Brexit ?
Bah oui, le Brexit, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont devenir. En tout cas, déjà, nous, pour pouvoir jouer en Angleterre, il va falloir payer très cher. Je pense qu'on ne pourra pratiquement plus jouer en Angleterre. J'ai lu un truc là-dessus.
Parce que quoi, il faudra payer des visas ou des...
Oui. À partir de janvier 2021, là. Tout a changé. J'avais très envie à un moment de rejouer avec une batterie et une contrebasse, parce que j'avais fait ça quand j'avais 25 ans, une formation comme ça, qui est une formation très classique en fait dans jazz, le jazz. Et je voulais, c'était presque un challenge, mais pas que voir ce que avec la musique que je faisais maintenant, ce que ça pouvait essayer de reprendre cette formation et d'aller ailleurs que dans le jazz et dans le free jazz. Alors c'est quand même assez free jazz, enfin si on se met à mettre des étiquettes, on peut pourquoi pas mettre celle-là. Mais donc j'ai cherché longtemps avec qui je pourrais faire ça, etc. Puis c'est vraiment avec eux que j'ai eu envie de mélanger les sons là. Et j'aime vraiment beaucoup jouer avec eux. Je trouve qu'on est très 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 libre, vraiment libre, je sais pas comment dire.
Et alors il y a je sais plus, 12 ans 10 ans en 2012, donc tu disais que il y avait des formations avec lesquelles tu as eu besoin de répéter et d'autres non. Est-ce que Eux, ça fait partie des gens à qui tu dois répéter avant ou non, vous arrivez comme ça
pas. Nous, on n'a jamais répété.
Ouais, ouais.
Non, on n'a jamais répété. On a les balances, les plus longues, elles ont duré un quart d'heure. Le premier concert, moi j'avais déjà joué, je connaissais John, on avait déjà joué un petit peu ensemble quand on était plus jeunes. Steve et moi, on n'avait jamais joué ensemble. Eux, ils se connaissent par cœur, évidemment. Et on a fait notre premier concert direct, comme ça, mais non.
Alors, vous avez sorti un disque il y a 2 ans, je ne sais plus, Akisek, donc,
ouais.
Dont on a écouté un extrait en début d'émission. Et quelle est la matière de ce disque-là? C'est quoi? C'est enregistré comment?
La matière. En fait, c'est... Oui, la matière. Donc, c'est sur le label de l'Orchestre National de Jazz d'Olivier Benoît, qui nous avait proposé à chaque musicien de faire un disque sur ce label. Et moi, j'avais des bandes d'enregistrement de concerts de ce trio-là. Et donc, les 3/4 du disque, c'est un concert dans un festival à Brighton, en Angleterre, qui avait été bien enregistré. Il y avait un bon piano. Et j'ai presque pris l'intégrale du concert. Et il y a un tout petit bout de 5 minutes qui est un extrait d'un autre concert dans un autre festival à Nickelsdorf, en Autriche, la même année, je crois. Et avec un travail de très peu de montage, mais de
raccord,
de mixage.
Ah oui. Ben justement, c'était ma
fait
question.
Fait par Benjamin Duboc.
Ouais, super.
Ouais.
C'était ma question d'après. Est-ce qu'il est nécessaire pour toi d'enregistrer en live ou est-il envisageable de s'enfermer à trois dans un studio et de prise?
Avec eux, non, je le ferai jamais. Moi, parce que c'est vraiment une musique. Qui se fait qui court et qui a besoin de du public et qui est vraiment un truc de vraiment qui marche avec l'énergie toutes les énergies de entre nous de l'acoustique des gens moi je faudrait me payer très cher pour que je mette un casque sur les oreilles et que j'aille dans un studio
Mais avec eux ou en général?
Avec eux, en général, j'aime pas ça, mais avec eux...
Encore pire. Hein.
Non, c'est complètement contradictoire pour moi.
Ouais.
Mais je l'ai déjà fait, du studio, j'aime pas ça. Pas.
Mais je crois qu'il me semblait que tu n'aimais pas tellement les disques. Déjà.
Ni les disques d'ailleurs, oui.
Mais justement, je voulais approfondir sur cette idée de rapport au public. Là, on a bien compris que c'est quand même que c'est une motivation. Tu parlais d'énergie, mais est-ce parce que beaucoup de musiciens disent ça, mais en quoi la présence du public influe réellement le jeu? Et est-ce que un public moins réceptif ou est-ce que ça vous a, est-ce que ça agit sur vous vraiment?
Bah oui.
Comment tu
Oui, mais c'est. Tout le monde le dit, ça. C'est très, très difficile d'en parler parce qu'en fin de compte, c'est effectivement... parce que c'est vraiment de l'ordre de l'indicible, justement, parce que c'est une histoire d'énergie ou je ne sais pas, c'est des trucs qui se sentent et qui sont très difficiles à expliquer. C'est pas... on joue pas pour faire plaisir à des gens ou... mais c'est de toute façon mais c'est quand même un partage. Le son il va quelque part, donc si moi chez moi quand je joue chez moi je joue pour les murs et en plus mes murs ils sont en béton, j'ai même pas envie de, j'ai pas beaucoup de plaisir à jouer chez moi ça me fait suer de donner ces sons à ces murs en béton qui me plaisent pas parce que j'aime pas le béton, et puis qui me renvoie à moi directement ce que je suis en train de jouer, alors que je me connais par cœur, que enfin, je sais pas comment dire, tandis que quand il y a du public, enfin, en tout cas, quand il y a une présence d'écoute, ça donne énormément de force pour jouer. Mmh.
Quelques mots sur l'improvisation. Question là. Comment faire pour qu'elle soit réussie? Qu'elle captive l'auditoire? Est-ce qu'il y a des trucs? T'as des trucs? Dis-nous tes trucs. Enfin. Est-ce que c'est l'expérience, selon toi? Le travail, comme tu l'expliquais tout à l'heure? Les répétitions, donc. Comment fais-tu?
Bah, réussi. Bah, non. Si je dis ça, je vais me faire. Non. T'as pas plus simple comme question? En tout cas, jouer toujours avec des gens avec qui on a du plaisir. Choisir les gens avec qui on partage ces moments-là, je trouve que c'est vraiment important. En tout cas, maintenant, pour moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai plus envie de m'emmerder. Mais c'est aussi une question d'âge, peut-être, d'expérience. Il y a eu des moments où j'ai rencontré des gens, j'avais envie de jouer avec eux parce que ils m'apporteraient telle chose ou telle chose, mais qui n'étaient pas spécialement humainement avec qui ça pouvait être dur. Humainement, ça m'intéresse plus ça, du tout. J'ai vraiment envie de. Je trouve que l'avant partage de son et l'après partage de son, qui sont aussi des moments de partage, c'est hyper important. Et quand ça se passe bien avant et que ça se passe bien après, en général, ça se passe quand même quand on s'écoute et qu'on a un peu d'expérience ou je sais pas de quoi, ça se passe bien pendant. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a fait notre premier concert avec Joe Clance et Michael Vacher. Ouais. On se connaissait pas du tout. On avait un concert dans un festival et on voulait se voir avant pour essayer. Et on n'a pas eu l'occasion. Et on s'est dit, on ne peut pas jouer ensemble. Alors, on se voit quand même avant et on boit des coups ensemble.
Et, ben voilà.
Et si on ne l'avait pas fait, la musique, elle aurait été vraiment beaucoup, beaucoup moins riche, je pense.
Ouais. Je veux bien le croire.
Ouais.
Et alors, tu vois, moi, on va écouter ce trio juste après. Mais j'ai encore une ou deux questions stupides.
Chouette.
J'ai vu récemment un trio de grands musiciens américains, plus ou moins d'ailleurs américains, ils n'ont pas su s'arrêter. Contrairement à vous, avec Steve Noble, toi-même et John Edwards au festival Paysage d'écoute, ou alors pour décrire un peu à nos auditeurs, ça bourrinait sec, parce que des fois ça va décrescendo et voilà, ça s'éteint, on va dire. Et là non, c'était ça bourrine et ça s'arrête, les trois s'arrêtent net, paf. Et là, franchement, l'enthousiasme du public, et on se demande, putain, ils font comment? Il y a un truc, ils ont une oreillette ou... Enfin, c'est magique, quoi. Et là, tu vois, nous, on était... Moi, j'ai gueulé, enfin, voilà. Et là, ce dont je te parle, non, c'est pas du tout ça. Il y aurait eu deux, trois fins possibles. Les mecs, ils ont continué, on ne sait pas pourquoi. Du coup, quel que soit ce qu'il y a eu avant, qui était plus ou moins bien, d'ailleurs, moi, l'impression, je suis sorti de là en disant, bah, mais c'est quoi, ça? Voilà. Donc, ma question, c'est... voilà, moi, je trouve que c'est grave de ne pas sentir une fin. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Bah, c'est vrai qu'on avait des oreillettes en fait. Non, moi je trouve ça, pour moi c'est important la fin. Il y a des musiciens non, pour moi c'est important, ouais. Et souvent avec ce trio, on fait des rappels. J'aime pas trop ça, mais parce que justement je pense qu'on a une fin comme ça souvent. Oui. Mais en fait parce qu'on a je crois tous les trois je pense qu'on a un peu la même notion de la structure ou de la forme. Enfin, on veut pas une forme précise, mais elle se fait, elle est derrière nous, elle se fabrique en temps réel comme ça. Mais on a quand même une espèce de conscience de la forme qu'on est en train de fabriquer, et on a une conscience du temps. C'est-à-dire que si on nous demande de jouer... Il y a des gens qui n'ont pas la conscience du temps. Bon, c'est pas de leur faute. Hein. Et il y en a qui mettent leur montre ou leur... ça n'existe pas. Leur téléphone pour pouvoir s'arrêter au moment où il faut. Moi, en général, j'ai plutôt... Enfin, je peux me tromper parfois, mais j'ai plutôt... Et les deux musiciens anglais aussi, la notion du temps. C'est-à-dire que si on nous demande de jouer 40 minutes, eh ben, on joue 40 minutes. Et puis, entre 38 et 42 minutes, s'il y a un moment où tous les trois, on sent que ça peut être la fin, ben, on arrête. Et puis voilà. Parce qu'il faut arrêter, on arrête. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont fait des arrêts, des fins un peu, un peu brusques. Mais parce que de toute façon, ça va très 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 vite. On s'écoute, ça, c'est une écoute qui... Ça va très vite, quoi, avec eux. Et donc ça va très vite pour faire un son, mais ça va très vite aussi pour s'arrêter, je crois.
Ouais.
C'est pareil.
Pour évoluer également.
Et pour... Oui, pour évoluer. Ouais,
pour les changer.
Mais
les
tout va très vite, mais peut-être que finir aussi, ça va... on trouve vite... on s'arrête vite, quoi.
Ouais, ouais.
C'est vite la fin. Enfin, vite.
Au bout de 40 minutes. Quoi.
Oui, voilà.
Ouais, ouais. Alors, Olivier Benoît, que tu connais bien, nous disait, quand il était venu, qu'il était soucieux de développer un discours avec un développement, un début, un milieu et une fin. Je voudrais savoir si tu partages ce souci. Et moi, c'est un peu ce qui... Peut-être que je comprends de la fin, quoi. Y a une fin, voilà. Y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Un petit peu comme au cinéma. Moi, j'aime bien le cinéma, par exemple.
Oui, ben, moi, je pense que c'est aussi avec Olivier là-dessus qu'on s'est retrouvés. C'est pas pour rien qu'on a joué ensemble pendant... Enfin, on joue ensemble depuis une vingtaine d'années. Un milieu, un début, un milieu, une fin, oui, mais pas une introduction, un développement et une conclusion. Mais vraiment, il y a un moment où ça commence, et puis ça continue, et puis ça s'arrête. Mais la fin, ça peut... Enfin, je veux dire, la fin, c'est pas forcément une belle fin qui a annoncé 5 minutes avant, tout ça. Hein.
Oui, bien sûr. Oui. Eh bien, tiens, j'en profite pour le dire à l'antenne, mais je l'ai dit, je vous l'ai dit à vous deux, on vous l'a dit, mais on vous remercie beaucoup à toi et à Olivier d'avoir participé au Festival des Oreilles Libres en juin dernier. C'était un des grands moments du festival. Merci.
Ben, merci de nous avoir invités aussi.
Merci beaucoup à vous. Et là, on va écouter Sophie Agnel, Jock Lanz et Michael Vacher. Thank you. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui à la pianiste Sophie Agnel. Alors Sophie, je me souviens qu'on a, lors de ce concert aux Instants Chavirés avec Jock Lanz et Michael Michael Vacher, il y avait des micros. Et il y avait des micros, donc c'était enregistré. Est-ce qu'un disque est en préparation ?
Oui, un disque est en préparation, mais pas du concert des Instants Chavirés. Je ne me souviens pas qu'il y avait des micros. Oui, c'est vrai. Benjamin l'a enregistré. Non, on a. C'était quand on a joué là, donc c'était il y a un an et demi, je ne sais plus. On a fait une petite tournée et on s'est arrêté 2 jours à Poitiers, un jour pour faire un concert et un autre jour pour enregistrer. En studio, avec des casques et tout, l'horreur, quoi. Et tout ce que j'aime. Et on a fait plein de toutes petites pièces. Et avec Joke, on va en studio dans un mois, là, au mois d'avril, pour réécouter et faire du montage, du mixage avec tout ça, enfin, depuis le temps. Et on va essayer de faire un disque avec ça. Et on refait des concerts à l'automne prochain aussi.
Ouais. Mais du reste, le travail de montage est un travail en soi. Hein, c'est pas... Il me semble bien que tu as fait une pièce de musique électroacoustique. Toi-même.
Oui, je fais ça. Ça m'arrive de. Oui. Non, mais le travail de studio après pour faire du montage, etc., ça peut m'intéresser. Oui. Mais jouer avec un casque sur les oreilles et faire quelque chose qui va être. Qui va rester.
Ah ouais.
Oh.
Alors, moi, tu sais, j'étais super content de revoir Michael Vacher, que je voyais à l'époque, je ne sais même plus avec qui, peut-être avec Roof, tout simplement.
Oui, avec Roof, avec Hamilton.
Ouais, et Tom Cora, disons.
Avec aussi le groupe de film. Il y avait Roof avec Tom Cora et il y avait Four Walls.
Bah oui, la suite. Ouais. Et donc ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu en France et je veux savoir comment vous êtes retrouvés à jouer ensemble avec lui.
Alors, ça, c'est un peu. En fait, j'avais une carte blanche. Fallait que j'invente un groupe pour un festival à pour le festival de Mulhouse il y a 2 ans. Et demi, je sais plus. Et enfin bon, bref, j'ai cherché, je passe les détails, mais je voulais jouer avec les. Enfin, je cherchais, il fallait que ce soit un trio, tatata. Et Jean-François Pichard, le programmateur des Instants Chavirés, m'a fait découvrir Joke Lenz, que je ne connaissais pas, et je l'ai rencontré sur Internet. J'ai regardé des trucs qu'il faisait, j'ai trouvé que ça avait l'air super intéressant et je lui ai proposé qu'on joue ensemble avec un batteur, mais je ne savais pas avec qui encore. Et donc lui, il ne me connaissait pas non plus, il m'a écouté sur Internet, il a trouvé ça super intéressant, il m'a dit « d'accord Sophie ». Et on a réfléchi à qui comme batteur et moi j'ai pensé au bout d'un moment, j'ai pensé à Michael Vacher que je ne connaissais pas plus que ça. Je l'avais beaucoup entendu avec Four Walls parce que j'avais vu beaucoup Four Walls à un moment et puis avec je l'avais essentiellement entendu là et donc on lui a demandé. C'était un peu risqué comme c'était vraiment un truc une idée sur papier sans que personne ne connaissait personne en fait. Et c'est avec ce groupe-là, et en plus, on n'a pas répété, on ne s'est pas vu
comme t'as dit tout à l'heure.
Avant, donc on ne savait pas trop si. Si on imaginait que ça allait bien se passer, mais. C'était une idée de
Fabien Simon ?
Je veux dire, c'était une idée. C'était pas une rencontre, parce que des fois on joue ensemble, on se rend compte et puis on se dit « Ah ouais, ce serait super de faire un groupe, machin », mais là c'était vraiment, il fallait, c'était un truc de cerveau quoi.
Ouais.
Il fallait trouver un groupe et voilà.
Alors je te parlais de
Fabien Simon, oui.
Oui, de Fabien Simon, parce que je lui pose régulièrement la question « Est-ce que tu te permets, en tant que programmateur, d'inventer des groupes ?» Tu vois, et donc là,
Non, lui, il m'avait dit, tu fais ce que tu veux.
Ouais, alors voilà, et ça t'arrive qu'on t'impose de jouer avec machin, ou qu'on te propose, hein, parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas.
Ça m'arrive presque, ça m'arrive plus.
Parce qu'on sait que tu vas pas.
Oh, ça m'est arrivé, il n'y a pas si longtemps, qu'on m'invite pour un festival, et puis qu'on me propose le deuxième jour une rencontre avec des musiciens qui étaient là-bas, mais c'est qui étaient en concert. Une rencontre concert. Et donc j'ai accepté, mais je pourrais refuser aussi si ça,
si ça te convient pas.
Mais non, ça m'arrive pas trop.
Ouais. Alors, je voulais savoir si tu t'es intéressé, tu vas voir la transition, si tu t'es intéressé toi-même à l'électronique, parce que voilà, tu joues du piano étendu, tu mets des objets, machin, et est-ce que tu t'es intéressé à l'électronique, au numérique plus largement, afin d'étendre les possibilités sonores de ton piano ?
Non, j'ai réfléchi à un moment à étendre les possibilités sonores de mon piano ou de changer d'instrument ou avoir un ordinateur en plus ou je sais pas quoi ou un piano en moins ou quoi. Et en tout cas, j'ai vite su que j'avais besoin quand même de je voulais faire de la musique acoustique ou presque acoustique. Et je veux pas par exemple jouer sur scène avec un ordinateur, rajouter des trucs avec un... ça c'est hors de question. Et
Alors, tu peux le faire si c'est quelqu'un d'autre qui le manipule, l'ordinateur, ou...
Oui,
c'est toi, tu veux pas avoir à manipuler l'ordinateur.
Oui, mais même je veux pas avoir à penser ces choses là. Et non, mais je veux bien jouer sur scène, jouer avec faire des rencontres avec des gens qui font de l'électronique. Ça, j'en ai fait beaucoup.
Oui.
Ça m'intéresse beaucoup.
Mais des gens qui manipulent ton son.
Ah. Ça dépend qui.
Eh ben, par exemple, Lionel Palin. Alors, comment ça se passe avec lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que tu peux nous le présenter d'abord ? Parce que c'est un vidéaste, hein, c'est pas...
Oui, Lionel Palin, c'est un électro-vidéaste, comme il dit, ou il dit. C'est un vidéaste qui habite à Lille et qui a un duo notamment avec Jérôme Neutinger et qui a fabriqué ses logiciels. Pour faire ses images, etc. Et on a un spectacle, on a fait un truc ensemble il y a longtemps qui s'appelait No Infinite. Maintenant on a un spectacle un spectacle tout public pour tout le monde, mais à partir de 6 ans, c'est-à-dire que ça peut être aussi pour des classes, pour des enfants, qui s'appelle Double Jeu, où on est en interaction le son et l'image, c'est-à-dire que il peut y avoir il y a des caméras dans le piano, donc il joue avec les images qu'il voit du piano, mais il peut aussi être en relation avec les sons. Il y a des sons du piano qui peuvent, parce qu'il y a des micros aussi, c'est très clair ce que je dis, il y a des sons du piano qui peuvent déclencher des images et vice versa. C'est tout un truc.
Ah oui, d'accord, oui. C'est une interaction vraiment technologique, on va dire.
Ouais.
Ouais. Bon, on va pas te demander de, on va pas te torturer plus d'expliquer le truc parce que ça m'a l'air un peu complexe le dispositif en tout cas. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est quand même que il y a, toi, tu peux agir donc sur l'image. Est-ce que tu sais, alors ma question c'était, est-ce que tu sais quand tu vas faire produire tel son, quelle image ça va donner?
D'abord, c'est pas tout le temps, mais il y a des moments dans notre spectacle où je peux agir sur la vitesse de l'image ou sur les couleurs, etc.
Ah,
ouais,
super,
ouais. Ouais. En fonction de si je joue vite ou si je joue fort ou si je joue grave ou ceci, cela. Ouais.
D'accord. Ouais. Et alors, est-ce que tu comparerais ça ? Est-ce que c'est comparable avec l'interaction que tu as avec un musicien avec lequel vous travaillez a priori la même matière, à savoir la matière sonore en l'occurrence.
Non, je pense pas parce que, enfin, je pense pas. C'est quand même, on essaye que ça fasse un tout, l'image et le son, mais c'est quand même deux choses différentes.
Oui.
Et donc c'est pas comme si on travaille. Avec du son et du son. Hein, parce que pour le public, ça fait quand même deux informations différentes. Même si on a vraiment appris à être ensemble, à se
ça m'a l'air imbriqué.
S'écouter. C'est imbriqué ouais. le plus possible, mais c'est quand même pas la même chose. Et on n'est pas dans le même temps. Mmh. On n'est pas. Lui met plus de temps à fabriquer ses images que moi ouais. à fabriquer mes sons.
Mais alors, est-ce qu'il y a des images? Bon, bah, j'ai compris qu'il y avait des images du piano, en fait. On le voit hein, dans les extraits vidéo qu'on peut trouver sur Internet. Il y a des images. Mais est-ce qu'il y a d'autres sources d'images, il me semble? Qu'il y a d'autres
il y a
des
aussi...
choses plus abstraites, on va dire.
Oui, il y a des images plus abstraites. Il fabrique ses images au fur et à mesure. Ouais. Il met aussi ses mains devant la caméra pour... Il travaille vraiment la matière. Mmh. On travaille la matière de l'image et du son... C'est comme ça qu'on s'est trouvé, c'est qu'on a vraiment, on est dans la matière tous les deux en temps réel.
Ouais, ouais. Et alors, il y a un seul écran derrière ou il y a plusieurs écrans?
Ah, il faut venir voir, il y a ouais. plusieurs écrans.
Ah, bah, c'est super ça. Donc, il faut venir voir le 26 et 27 mars.
Parce qu'il y a trois séances qui sont pour les écoles,
ouais.
Alors c'est, s'il y a un adulte qui veut venir, il peut éventuellement, mais c'est complet, c'est bourré à craquer d'enfants.
Ouais.
Et la séance qui est ouverte à tout le monde, c'est le vendredi 27 à 19h. D'accord. Au théâtre Berthelot à Montreuil,
super,
sous bois.
On ira. Et alors,
avec ou sans enfants?
Oui, voilà, à 19h, oui. La plupart du temps, on ne comprend absolument rien à ce que tu fais, parce qu'on ne voit pas. Enfin bon, ouais, non, c'est vrai, on est en public par définition et donc on voit pas. Et là, du coup, avec ces caméras,
non,
on voit toujours pas. Mais qu'est-ce qu'on voit alors? Est-ce qu'il y avait pas l'idée justement de montrer?
Non, parce que ça, dans le spectacle qu'on a fait, qui s'appelle avant,
ouais.
c'est pas no. ça que t'as vu, qui s'appelle No ouais. Infini,
ouais.
on voit.
Ah d'accord, et là on voit pas.
Il y a des caméras au-dessus du piano qui n'a pas de capot et on voit. Et là, non, c'est pas ça qu'on donne à voir.
C'est pas l'idée de dévoiler un peu? Ah ouais,
non,
d'accord.
Non. Il y a un moment on voit, mais de toute façon je ne dirai rien. Là. Non, mais je vais pas non plus dire là, ce qu'on voit et ce qu'on voit pas,
d'accord,
mais
d'accord.
on voit pas spécialement le à un moment un petit peu, mais c'est pas ça
le propos.
L'idée.
D'accord.
Non.
Alors il s'agit d'un spectacle tout public, tu l'as dit, à partir de 6 ans. Et alors premièrement, d'où vient cette volonté de s'adresser à un tel public plus jeune, on va dire, et en quoi ça, si c'est le cas, en quoi ça influence la conception du spectacle?
Alors, moi, c'est pas mon premier spectacle jeune public, c'est le troisième, un truc comme ça. Et j'ai demandé à Lionel de qu'on le fasse ensemble. Et ça a été, on a été produit et aidé par le Centre de création nationale de musique à Ténor, à Saint-Nazaire, qui est assez spécialiste en spectacle jeune public musique.
Ouais.
Et ils nous ont aidés à le concevoir et dans l'idée et dans la réalisation aussi financière, etc. Et en fait, d'abord, moi, je pense que... Enfin, ça, s'adresser aux enfants de façon... exigeante artistiquement, pour moi c'est politique.
Oui.
Enfin, c'est un endroit vraiment où je pense que il y a vraiment c'est bien de s'y prendre tôt tant que les gens sont pas
trop formatés.
Et puis donc la différence entre un spectacle pour tout le monde et un peu plus pour les enfants, c'est le temps, justement. Enfin, le format, ça ne peut pas durer 1h30 parce que sinon, ils vont partir. Donc, ça dure forcément beaucoup moins de temps parce que... Donc là, ça dure 40 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Ou 45, je ne sais plus. Puis, de toute façon, ça, c'est un peu improvisé, donc ce n'est pas non plus à 3 minutes près. Et aussi, la scénographie, c'est-à-dire que... c'est pas la télé, quoi. C'est-à-dire qu'on essaye, enfin là Berthelot ce sera un peu différent, mais on essaye qu'il soit proche, qu'il soit dans un espace on fabrique pour eux un espace dans lequel ils sont vraiment avec nous pour voir et entendre, quoi.
D'accord. Ouais.
Et pas spectateur. Ils sont spectateur-acteur, quoi. Enfin, acteur. Ils participent pas. Ils montent pas sur scène avec nous, mais ils sont vraiment là. Ça leur demande d'être là, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Et alors, j'ai lu le dossier de presse, tu sais. Je travaille un petit peu les émissions en amont.
Ça moi aussi, je t'ai envoyé le.
Ah oui, bah oui, merci beaucoup. Alors, j'ai lu, il est question d'écriture, de composer, relever ces termes, et même de partition, certes, entre guillemets. Mais on a quand même l'idée de quelque chose d'écrit, peut-être. Est-ce qu'il y a une trame ?
Oui, oui, là, il y a carrément une. C'est très serré comme écriture pour moi. Oui, oui, parce que. Il y a un déroulé, hein, il y a une histoire en fait. C'est pas l'histoire, c'est pas le petit chaperon rouge, mais quand même, il y a alors là, il y a plus qu'un début, un milieu, une fin. Il y a vraiment des tableaux,
oui,
qui s'enchaînent les uns avec les autres, et on sait que on commence comme ça parce que si on est obligé de suivre l'ordre pour des questions techniques,
oui,
et on a vraiment fabriqué. Une espèce d'histoire abstraite que chacun, enfin, le plus abstrait possible, parce que, enfin, le moins concret possible, pour que quand même chacun puisse se raconter des choses en fonction de ce qu'il est, et que voilà, on laisse ouvert, mais il y a vraiment une structure.
Eh ben très bien, un spectacle qui ne prend pas les enfants pour des imbéciles, ben on vous remercie pour eux. Donc c'est parce que c'est pas si fréquent. Au Théâtre Berthelot, à Montreuil, les 26 et 27 mars. Encore une ou deux questions et la question de ton cordophone. Est-ce que tu continues à jouer du cordophone ?
Oui. J'en joue.
Tu peux rappeler ce que c'est ?
Alors, le cordophone, vous ne savez pas ce que c'est. C'est un instrument assez petit, enfin plus petit qu'un piano en tout cas, qui est transportable, que je me suis fabriqué il y a longtemps, mais que je ne sors pas souvent, qui est un mix entre une basse électrique et une sitar. Disons, il y a dans le même bois, il y a un manche de basse électrique à trois cordes et avec des micros de basse, donc qui est utilisé à plat, mais avec un jack et un instrument électrique, et une espèce de table de sitar, quoi, avec des cordes de piano, des cordes de guitare, des cordes.
Mmh.
Sur lesquels et des micros dessous pour l'amplification et donc sur ces cordes je pose des objets comme je fais souvent dans le piano, je manipule tout ça pour faire des sons scrutch scrutch. Et tu
en joues encore là ? Tu as des concerts ?
Et là je joue avant l'émission, dans deux jours.
C'est-à-dire, tu joues il y a 15 jours.
Joue il y a 15 jours, ouais. Avec Lara Brul et Delphine Augereau, son, danse et texte autour d'Antigone. Voilà, on a un projet ensemble avec le cordophone. Et puis, je suis en projet aussi avec Philippe Foch, qui joue de la batterie, qui m'a invité à travailler en duo avec le cordophone et ses percussions. On travaille ça en ce moment. On est en résidence dans des lieux en France et on travaille ça. Et puis je voudrais aussi le en refaire une deuxième mouture de cet instrument, parce que maintenant que je vois tous ses défauts, j'aimerais bien qu'il en ait un petit peu moins.
D'accord.
Et voilà.
Et alors, puisque tu en parles un peu, quelles sont tes futures idées de création, de collaboration que tu vas développer dans les mois à venir ?
Eh bien, je voudrais consolider tout ce que je fais. J'ai pas de projet nouveau. Mmh. Donc, à part... non, j'ai... Il y a des disques sûrement qui vont sortir. Il y a un disque en duo avec John Butcher qui va sortir, qu'on a enregistré il n'y a pas longtemps. On va essayer de trouver aussi d'autres concerts en duo. Mmh. J'espère, on a vraiment envie. À chaque fois qu'on fait ça, c'est super. Avec Nyx, Isabelle et Angelica, on a le projet de faire un disque aussi. Moi qui n'en fais jamais de disque. Il y a le disque aussi avec Michael et Joke. Cette année, j'ai beaucoup de pédagogie dans les écoles. Ça va se terminer en mai, là, dans les écoles à côté, dans le bas de Montreuil. Je travaille de l'improvisation avec des élèves. Voilà. Mmh. C'est une année comme ça. Avec trois classes, des projets différents. Puis l'année prochaine, je serai sur les routes tout le temps parce que mon fils sera majeur et je pourrai faire ce que je veux.
Génial.
Voilà.
Eh ben écoute, merci beaucoup Sophie d'être passée dans les studios de Radio Libertaire des Oreilles Libres. On se quitte avec le cordophone, justement.
Voilà.
Merci beaucoup, Sophie.
À bientôt. À bientôt.
Salut.
Thank you.